Bienvenue, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à l'ouverture de la parole du Seigneur. Vous avez certainement remarqué, comme je l'ai remarqué, qu'il peut arriver dans la vie d'un individu, comme dans la vie d'une église, qu'il y ait eu une époque où tout allait très bien, on était encouragé, le Seigneur était intervenu, on a été délivré d'une situation, on a rencontré le Seigneur, ou l'Église a eu un bon départ, et puis avec le temps, eh bien, on a l'impression que commence à patiner, qu'on commence à tourner en rond, que ça ne progresse plus, que les choses ne sont plus comme elles étaient. Et alors, bien sûr, parfois on se donne des raisons, soit on dit que les temps sont durs, on met ça sur la faute des circonstances, parfois on explique ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont parties, parce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées, mais parfois il ne faut pas aller chercher loin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué chapitre 1, et on voit aussi là, le chapitre commence par cette parole « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu veut donner ce pays aux enfants d'Israël depuis très longtemps. Il en a parlé à Abraham. Mais ce n'est pas par hasard que ce livre commence par, comme on ne commencerait jamais un livre, par « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel ». Mais quelque part, en fait, c'est exactement ça. Ce chapitre marque la fin d'une période et le commencement d'une nouvelle. La fin d'une période parce que vers la fin, là, Moïse commençait à être un peu affecté. Il n'avait plus la patience qu'il avait eue avant. On l'a vu au rocher, quand il devait parler au rocher, il a frappé le rocher, puis il était un peu énervé contre le peuple. Et combien de fois cet homme qui était le plus patient du monde, mais même sa patience commençait à se limiter et à ne plus être là. Et plus ça allait, plus ces 40 années dans le désert s'allongeaient, eh bien plus il y avait l'irritation, il y avait le peuple considéré voulait rentrer en Égypte et on parlait plus de rentrer en Canaan et même Dieu a interdit à Moïse de rentrer dans le pays de Canaan et les choses semblent arriver à un point là où c'était il fallait faire quelque chose. Et donc Moïse meurt et Dieu s'adresse à Josué. Il dit maintenant c'est le moment de commencer. Et il donne l'ordre. Il dit ça suffit de tourner en rond, ça fait 40 ans que vous tournez en rond et que vous allez nulle part. Maintenant c'est le moment d'aller de l'avant. Et on ne peut pas dire que le peuple ne reconnaissait pas que c'était l'Éternel qu'ils avaient fait traverser la mer Rouge. Et on ne pouvait pas croire que l'obstacle du Jourdain était plus grand que l'obstacle de la mer Rouge. C'était même pas les mêmes conditions. Tout le monde savait que c'était le bras de l'Éternel qui avait permis aux enfants d'Israël de traverser le Jourdain. Et c'est cette même puissance de l'Éternel qui pourrait les faire traverser le Jourdain. Peut-être que dans notre vie personnelle, le Seigneur a fait une chose merveilleuse. Il nous a arrachés du monde et nous a donné une position nouvelle en lui. Mais maintenant, parce que les choses se tassent, parce qu'il n'y a plus l'excitation, parce qu'il n'y a plus toute cette fraîcheur du début de la vie chrétienne, eh bien, il se peut même si vous ne le dites pas tout haut, qu'il y a ces pensées de dire « mais je ne vois pas l'avantage, je crois que je vais retourner un peu, pas vraiment à la vie que j'avais avant, mais je vais un peu retourner dans le monde, je commence à me lasser de l'église, Je ne sais pas si je vais continuer à assister, peut-être de temps en temps. Et encore petit à petit, on commence à, il y a un refroidissement qui se fait. Résultat d'une lassitude, parce que c'est toujours la même chose et on a l'impression qu'on va nulle part, que ce soit l'Église, que ce soit dans sa vie personnelle. Mais ici, c'est l'Éternel qui prend l'initiative et qui dit au peuple, écoutez, ça suffit de tourner en rond, c'est lui qui le dit, et c'est lui qui dit, maintenant, il faut regarder de l'avant. Et Dieu intervient dans cette spirale de notre vie spirituelle, cette trajectoire qui s'enfonce, et pour interrompre ce parcours. Et lui, tout d'un coup, il veut redresser cette spirale et puis dire, écoutez, c'est droit devant, vers le but et par la foi. C'était par la foi que le peuple avait traversé la mer Rouge et qui avait été délivré de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est maintenant, c'est par la foi, eh bien, qu'ils doivent traverser le Jourdain sur l'ordre du Seigneur. C'est pas juste un souhait de vouloir traverser, mais le Seigneur dit de traverser, et donc par la foi, confiant dans sa parole, eh bien on veut traverser. Et là, dans Josué chapitre 2, chapitre 1, verset 2, il nous dit, Dieu dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. Et si Dieu dit, lève-toi et passe, c'est que il a les moyens de nous aider à passer. Et il ajoute, et qu'il est avec, et il dit, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras, au verset 9. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Les promesses sont là pour accompagner l'ordre. Le Seigneur ne nous donne jamais, un ordre sans fournir les moyens pour y aller. Et c'est le principe de la vie chrétienne. L'apôtre Paul rappelle ce principe aux Corinthiens, aux Colossiens, je veux dire, dans le chapitre 2, verset 16, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous l'avez reçu par la foi, ça a commencé par la foi, continuez par la foi. Et il dit aussi aux Galates qui se sont laissés distraire et détourner par ces lois de Mosaïque et ils se posent des questions qui n'ont pas à se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à insister sur la circoncision et sur le sabbat et sur et tout ça. Et l'apôtre Paul répond et dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si la vie a commencé, il nous a donné la vie, c'est par l'Esprit, la nouvelle naissance, bien sûr, celui qui naît de l'Esprit est Esprit, c'est par l'Esprit que nous vivons. Eh bien, il dit alors, maintenant, marchons par l'Esprit. Marcher, on peut pas, ça n'a pas le sens d'être arrêté, d'être assis, de tourner en rond, mais marcher, c'est aller quelque part. Dans ce premier chapitre, eh bien, nous voyons les promesses du Seigneur. C'est des promesses sur lesquelles Josué pourra s'appuyer et sans crainte, parce qu'elles engagent Dieu. Mais il y a des conditions qui doivent être remplies au préalable. Comme par exemple dans le verset 3, il nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, il dit, voilà, mais il faut le fouler. Hein. Je vous le donne, mais pas à l'avance. Il faut y arriver, il faut prendre possession en marchant dessus. Il faut fouler ce sol et je vous le donne. Je vous donne ce dont vous prenez possession. Eux, ils ont foulé le désert pendant 40 ans, mais c'est le désert qui les possédait, qui les, en fait, qui les... consommés, hein, parce qu'ils laissaient leurs cadavres là. Mais verset 5, il ajoute, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais le peuple a comme l'impression que Durant ces 40 ans, ils ont comme cette impression que Dieu, en fait, veut le contraire, qu'il veut les détruire, et qu'ils sont là, et ils essayent de survivre, d'échapper à ses jugements. Mais en fait, Dieu veut les accompagner, il veut qu'il les aide à prendre possession de ce pays. Mais il faut que ce peuple agisse, il faut qu'ils aillent de l'avant. Il y a des conditions à remplir pour que ces promesses s'enclenchent. Par exemple, les versets 7 et 8, où il dit: Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Hein. C'est important d'agir fidèlement selon toute la loi de Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a des conditions à remplir. Il y a une fidélité à la parole de Dieu, une fidélité à ses promesses, à sa volonté. Jésus a dit la même chose lorsqu'il a laissé ses disciples juste avant de monter au ciel. Il leur a donné une mission. Bien sûr, il y avait une promesse. Il a dit: Voici, je suis avec vous. Mais il a aussi dit: Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il ne faut pas oublier que la promesse de la présence de Dieu est liée à notre obéissance à la parole. Certains veulent que Dieu se sente lié à nous, quoi que nous fassions ou que nous allions, et donc mais non, il dit, il y a des promesses qui ont des conditions qu'il faut remplir. Là, lorsque nous regardons ce passage, nous savons que jusque-là, jusqu'à le peuple d'Israël, dans le désert, à force de tourner en rond, ils étaient arrivés au point où ils murmuraient à tout bout de champ. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était les murmures, c'était la remise en question de l'autorité de Moïse, remise en question de Dieu, remise en question de toutes sortes de choses. Mais lorsque les enfants d'Israël traversent le Jourdain, une fois qu'ils s'embarquent, eh bien, nous voyons un peuple conquérant. Ce même peuple, mais il est conquérant. Parce qu'ils commencent à placer leur confiance en Dieu. Et ils commencent à suivre les ordres, à obéir. Et c'est là, il nous dit, le Seigneur dit à ce peuple, Josué chapitre 1, verset 11, il dit: Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et quand il a dit ça, il n'y avait pas de murmure, ils étaient prêts à partir. Pourquoi? Toujours, le timing de Dieu est bon, Dieu prépare les cœurs, et quand il dit d'y aller, il faut y aller. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël n'avaient pas pris possession du pays pendant sous Moïse? Eh bien, parce qu'on voit quand même que quand Josué, lui, il va envoyer des espions, comme Moïse l'a fait, mais pour Moïse, ces espions qui étaient partis pour observer le pays, eh bien, c'est eux qui étaient revenus et qui avaient découragé le peuple. Il faudrait qu'on regarde de plus près cette situation-là. Lorsque nous regardons dans Deutéronome chapitre 1, Deutéronome chapitre 1, Moïse leur rappelle comment les choses s'étaient passées au moment de juste avant l'entrée où ils étaient arrivés jusqu'à la frontière de Canaan. Et il nous dit au verset 22, Deutéronome chapitre 1, verset 22, il dit: Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites: Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. C'était l'idée venait des hommes. Ils ont dit, d'accord, on va y aller, mais on va envoyer du monde pour aller vérifier. Et Moïse dit au verset 23, cet avis me parut bon. Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Et lorsque nous regardons dans Nombre chapitre 13, verset 3, eh bien, nous voyons qu'on suggère que se prennent des chefs, des responsables dans chaque tribu. Mais ces hommes sont partis, et lorsque nous lisons dans le Nombre chapitre 13, nous voyons comment les choses s'étaient passées. Et au retour, ces hommes donnent leur rapport. Et il nous dit au verset 27, donc Nombre 13, verset 27, il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et puis il dit, et les Amalécites habitent dans cette contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent dans les montagnes, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme aux leurs, comme des sauterelles. Bon, il y avait un peu d'exagération là, parce que ça ne s'est pas confirmé par la suite. Et c'est vrai qu'il y avait quelques géants, mais ce n'est pas tout ce qu'il y avait. Ce que nous comprenons, c'est que, en fait, ils ont eu leur idée. Dieu a dit, on va y aller, je suis avec vous, je vous donne ce pays, je l'ai promis à votre père Abraham, mais eux, ils ont résisté. Ils ont vu les choses à leur manière. Et un grand problème, c'est que, vous savez, c'est ce problème qui arrive souvent, c'est qu'on croit, en utilisant les moyens humains, on va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Vous vous souvenez d'un Acte chapitre 6, quand il y avait un problème qui s'était développé dans l'Église. Eh bien, on a dit qu'il y avait de l'injustice parce que les veuves juives étaient favorisées par rapport aux veuves hellénistes. Et on s'était plaint, et les apôtres avaient dit, mais nous, on ne peut pas quitter ce que nous faisons là et pour s'attacher aux tables. Alors, on va choisir des hommes pour s'occuper de cela. Mais vous remarquez, quand vous lisez le chapitre 6, qu'ils n'ont pas été chercher des entrepreneurs, ils n'ont pas été chercher des gens qui avaient l'habitude de gérer des situations et qui avaient les sciences des relations humaines. Non, ils ont dit, cherchez des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on essaie de faire l'œuvre de Dieu, et on essaie de prendre des gens qui ont des capacités, des talents humains, plutôt que de chercher des hommes spirituels, eh bien, nous aurons toujours des problèmes, parce que ça va démotiver. Quand on dépend trop de notre intelligence et de notre expérience et de notre sagesse, eh bien, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il n'y avait pas la foi, parce que ces hommes ont dit ce que leur intelligence et leur expérience avaient dit, c'était des chefs. Et la seule raison pourquoi on les a pris, c'est parce que c'était des chefs de tribu, et non pas parce qu'ils étaient spirituels. Et ces chefs de tribu avaient créé pas mal de problèmes pour Moïse. Et eh bien, le résultat, c'est que ils restent dans le désert pendant 40 ans. Là, plus tard, vous savez, des fois, nous insistons sur notre manière de faire. Et je vais vous lire un passage, un verset dans le psaume 106, où justement il fait référence à cette période. Et le psaume 106, et au verset 15, il nous dit. Donc 106, verset 15, il nous dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Les enfants d'Israël ont dit, nous voulons envoyer des espions. Bon, d'accord, envoyer des espions. Et ils ont envoyé des espions. Mais le résultat, c'est que ça a eu un mauvais effet chez eux. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, nous insistons sur notre volonté parce que nous croyons que notre méthode est meilleure. Nous voulons faire les choses à notre manière. Et finalement, le Seigneur dit, bon, ben, allez-y, faites-le. Et le résultat, c'est qu'après, il y a des résultats qui ne sont pas agréables. Il y a de l'amertume et tout cela. Alors quand on commence à faire l'œuvre de Dieu, on a commencé par la foi, mais après on commence à le faire avec l'intelligence, avec nos méthodes, avec les idées qu'on a trouvées chez les autres. Et au lieu de faire les choses comme Dieu nous a dit, eh bien, le résultat, c'est qu'après, on commence à avoir dans les rangs, on commence à avoir de l'amertume, du murmure, des plaintes, de la lassitude. Et c'était exactement ce qui était arrivé à l'époque de Moïse. Dieu a cédé à leurs caprices et le résultat, eh bien, c'était de l'amertume. Tandis que lorsque Josué a envoyé ses hommes, deux espions, c'est lui qui a choisi ses hommes. Et ils étaient partis, non pas pour voir si, mais pour voir comment. Ils sont allés, et Dieu les a guidés chez Rahab, comme vous connaissez l'histoire. Pour qu'ils entendent que le peuple de Jéricho tremblait depuis 40 ans. Et qu'ils attendaient à ce que les enfants d'Israël viennent et prennent possession du pays. Mais ils ne venaient pas, mais ils tremblaient encore, ils tremblaient toujours. Et combien de temps a été perdu? Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire les choses à la manière des hommes, et selon la sagesse humaine, et alors il y a un travail qui n'a pas été fait. Et le monde s'attendait à ce qu'ils arrivent, et le peuple, lui, tremblait parce qu'ils avaient peur des Cananéens, et les Cananéens tremblaient parce qu'ils avaient peur des enfants d'Israël et du Dieu d'Israël qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, pourquoi est-ce que Josué peut prendre possession du pays? Eh bien, d'abord, il y a un principe, c'est que... Le berger, eh bien, il dit « Marchez, je vais devant vous ». Et quand le berger marche devant ses brebis, eh bien, elles le suivent. Hein? Dieu va dire « Écoutez, maintenant, c'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige. Et Josué, tu es mon bras droit et tu vas représenter cela ». Et donc, combien de chrétiens vivent dans la terreur de l'engagement total parce qu'ils ont peur de ce que le monde va penser, ce que le monde va dire, le patron, si je lui dis que je suis chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Si je me déclare croyant, qu'est-ce que ça va engendrer chez les autres et dans le quartier, dans mon travail et parmi mes amis Et alors on ne dit rien, on vit dans la crainte, et donc il n'y a pas de croissance chez nous, parce qu'on vit dans cette crainte, cette imagination d'un danger, et alors que eux, ils savent qu'il y a quelque chose chez nous, en tous les cas, ils voient que ce n'est pas pareil, et qu'il y a une force chez nous, mais que de temps perdu. Et quel temps gaspillé, à cause d'une crainte devant un épouvantail, qui frissonne de peur. Pierre, dans son épître, nous parle du diable qui est comme un lion rugissant, qui rôde cherchant qui pourra dévorer. Et alors, le lion rugit et les brebis s'agglutinent autour entre elles. Elles se blottissent les unes contre les autres. Et puis, c'est les petits refuges qu'on appelle des salles de réunion. Elles ont ces petits refuges et puis elles s'assemblent et puis elles marmonnent des chants de victoire et de confiance dans le Seigneur. Mais dès qu'elles sortent, elles sont timides, elles ont honte de ce qu'elles sont. Et alors que le peuple attend, le monde extérieur attend que quelqu'un vienne avec une réponse pour les aider. Les enfants d'Israël se sont approchés de cette muraille qui les faisait si peur, mais finalement ils n'ont jamais été obligés de la toucher. Ce qui est étonnant même, c'est que les deux espions de Josué sont passés par un trou dans cette muraille, hein, et ils ont échappé. Pierre qui nous dit que Satan est comme un lion rugissant, il nous dit aussi, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein, donc, le lion rugit, c'est pour que les brebis prennent peur. Et puis, croyant que le berger ne pourra pas les protéger, elles essayent de fuir. Et c'est à ce moment-là qu'il peut les happer, les saisir. Hein, le loup ne s'approche pas du troupeau, non pas parce qu'il a peur des cornes des béliers, mais parce qu'il a peur du bâton du berger. Hein, et les brebis doivent s'approcher, se rapprocher du berger, mais faire confiance au berger pour prendre soin d'elles. Mais c'est à eux de le suivre là où il passe, et il sait ce qu'il fait. C'est lorsque l'on s'éloigne du berger et que l'ennemi peut nous prendre et prendre possession. Les deux espions, hein, je rappelle encore, les deux espions sont été conduits par l'Éternel chez Rahab, qui avait la foi pour croire. Et qui a pu leur dire que la ville était en terreur. Et c'est elle qui a expliqué toute la situation. Et lorsqu'ils sont revenus voir Josué, eh bien, Josué était encouragé. Et il a dit, allons-y. Tout comme ça avait été fait à l'époque de Gédéon. Gédéon qui avait un certain petit doute. Eh bien, Dieu a dit, eh bien, écoute, approche-toi du camp, écoute ce qu'il raconte. Et lorsqu'il a entendu l'explication d'un songe, eh bien, il savait qu'il était prêt. Et avec ses 300 hommes, il n'avait pas peur d'affronter une vallée remplie d'Amalécites. Et le Seigneur a fait la même chose pour Paul. Hein, depuis quelques mois, il était à Corinthe. Et les choses étaient assez. Il y avait beaucoup de résistance. Et les choses ne partaient pas comme il avait pensé. Alors, il entretenait l'idée de partir, d'aller ailleurs. Et le Seigneur apparaît dans une vision, hein, Actes chapitre 18, et lui dit, non, non, j'ai un peuple dans cette ville, reste. Et il restera 18 mois. Et une église s'établira. Hein, donc, nous devons, plutôt que de nous appuyer sur notre évaluation, ce que nos yeux nous disent, et ce que les bruits nous racontent, c'est plutôt d'écouter les ordres du Seigneur, de suivre le Seigneur, de mettre notre confiance dans le Seigneur. Et lui, il nous accompagnera. Il faut se souvenir toujours que lorsque le Seigneur envoie, il va devant. Ces espions l'ont constaté et ont pu le dire certainement. Hein, c'est le rapport qu'ils ont donné à Josué en revenant de chez Rahab, dit certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Voilà, ça c'est des paroles d'encouragement. Sur les 12 espions qui avaient été à l'époque de Moïse, il n'y avait que deux, hein, Josué et Caleb, qui étaient les seuls deux qui avaient confiance en Dieu. Et les autres, eh bien, ils n'avaient pas eu de foi et ils se sont appuyés sur leurs impressions et ils avaient vu plus gros que la réalité. Et parfois, nous aussi, hein, nous surestimons l'ennemi, mais nous devons et nous sous-estimons notre Seigneur. Alors, et le résultat, c'est que il y a une lassitude qui se développe chez nous, il y a de l'amertume, il y a de la critique. Et alors, comme après, on commence à se critiquer les uns les autres, il y a un manque de confiance, et l'Église s'autodétruit. alors que, et combien de temps perdu, alors que le monde attend que quelqu'un vienne le rapporter. Oh, c'est pas tous, mais c'est à nous de sortir. Suffit de tourner en rond dans le désert et allons de l'avant par la foi, sans se laisser effrayer par ce que nous croyons voir. Si le Seigneur nous donne l'ordre, il va de l'avant, il nous accompagne. Et donc prenons le temps de nous arrêter, nous dire, mais pourquoi est-ce que je me suis arrêté? À quel moment est-ce que mon zèle s'est refroidi? À quel moment est-ce que j'ai cessé d'obéir aux impulsions du Seigneur? Est-ce que j'ai cessé de lire la parole? Est-ce que j'ai cessé de faire confiance à ses promesses? Et quand est-ce que ces sentiments de découragement, de lassitude, ou quand j'ai commencé à voir la paille qui était dans l'œil de mon frère, plutôt que de m'intéresser à la poutre qui était chez moi, et c'est de s'arrêter et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux te faire confiance et je veux aller de l'avant avec toi. Si tu me conduis, j'irai. Comme disait Moïse, il disait, si toi tu ne vas pas avec moi, je ne pars pas de cette montagne. Mais si tu vas avec moi, j'irai n'importe où. Et c'est un peu ça que nous devons dire et c'est cette attitude que nous devons avoir et nous encourager. Et si nous avons fait des erreurs, si nous n'avons pas fait confiance au Seigneur à des moments, demandons-lui de nous pardonner et puis de nous relever. Et ça changera tout. Nous verrons le monde autrement. Le monde qui nous entoure, qui paraît si. On voit ce lion rugissant, mais par la foi, eh bien, nous voyons plus clair et nous voyons qu'il n'a pas de dents. Il a déjà perdu. La victoire a été remportée sur la croix. Et ce lion rugit parce que c'est tout ce qu'il a. Un lion normal, eh bien, lorsqu'il guette une proie, il ne rugit pas. Il rugit quand il est frustré, quand il veut manifester sa force et qu'il est frustré dans ce qu'il veut faire. Mais pas quand il est à la chasse. Et donc, essayons de voir les choses comme Dieu le veut et qu'il nous aide et confessons notre manquement et faisons confiance au Seigneur. Et il fera de grandes œuvres parmi nous. Que le Seigneur nous aide chacun. Et prenons le temps de nous arrêter, de méditer un peu sur ce que le Seigneur a pu nous donner comme pensée pendant que nous écoutions cette prédication et que nous puissions traiter des choses qui nous concernent. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen.